Un temps d'adoration, de louange et d'adoration. On a vraiment goûté à la joie du Seigneur un peu plus que ça, puis les gens, je dis un peu plus. La prochaine fois, ça va arriver. On va se mettre à danser pour le Seigneur, parce qu'il est bon pour nous, parce que sa miséricorde dure à toujours. On sait qu'en ces temps de festivité, on a fêté la Noël il y a quelques jours, et en ces temps de festivité, nous qui connaissons le Seigneur, on se réjouit, mais on ne se réjouit pas comme le monde. On n'a pas besoin des plaisirs du monde, mais on se réjouit dans notre Rédempteur. On sait que Noël signifie que le Rédempteur nous est né. La parole de Dieu nous dit qu'un Rédempteur nous est donné et un Sauveur nous est né. Alors voilà l'objet de notre joie ce matin. Ça devrait être l'objet de notre joie tous les jours de notre vie. Le fait que nous sommes délivrés, le fait que nous sommes sauvés. Alors on a parlé beaucoup du Rédempteur en cette période de Noël, la semaine passée aussi, quand notre pasteur, Pasteur Ken, était ici, et puis on parlait du Rédempteur, on parlait du Messie qui est envoyé. Alors ce matin, on va parler de la rédemption, parce que notre Rédempteur, en effet, est venu faire une œuvre de rédemption. Alors on va parler de la rédemption ce matin. Le titre du message pour ce matin, c'est « En lui est la rédemption ». Alors si je vous posais la question ce matin, êtes-vous racheté? Amen, alléluia. Je suppose que vous allez me répondre, en effet, oui. Alors, je vous demande, de quoi êtes-vous racheté?
De tous nos péchés.
De nos péchés, oui, de l'enfer, de Satan, certainement. Et toutes ces choses sont vraies. Toutes ces choses font partie de notre rachat, font partie de notre rédemption. Mais je vous pose la question à nouveau. Êtes-vous vraiment racheté dans le vrai sens du mot?
Oui.
Amen. On va voir ce matin... Le mot « rachat », on va voir deux significations du mot « rachat ». On va voir que la première signification, le mot « rachat » veut dire d'être acheté à nouveau. Ce qui suppose que, à un moment donné, on a perdu nos droits. On a perdu notre droit de rédemption, si vous voulez. Parce que d'être acheté à nouveau, ça suppose qu'on a appartenu à quelqu'un d'autre à un moment donné. Si moi j'ai un objet de valeur et je dois l'acheter à nouveau, c'est que je l'ai vendu à quelqu'un, pour une raison quelconque, je m'en ai défait, et je dois l'acheter à nouveau. Alors, ça signifie ça, c'est une des significations du mot « rachat », c'est d'être acheté à nouveau, c'est d'être ramené à notre place, à notre position première. On sait que Christ nous a racheté de la malédiction entièrement. Pas juste en partie, mais totalement, Christ est notre Rédempteur. Il est venu pour racheter l'homme, le genre humain, l'humanité, si vous voulez, à l'image de Dieu que nous étions autrefois. À cette place, à cette position où on pouvait marcher, on peut à nouveau marcher et parler avec lui. On se souvient dans le Jardin d'Éden, avant la chute, avant la désobéissance, avant la transgression, avant le péché, il y avait cette perfection qui régnait. Dieu a créé l'homme à son image. Il nous a créés à sa ressemblance. Tout ce qu'il a créé était parfait, incluant l'homme et la femme. Il les a créés dans une perfection. On sait qu'à la fraîcheur du soir, le Seigneur, Dieu parlait, marchait. On entendait littéralement, la parole de Dieu nous dit dans Genèse qu'ils entendaient les pas. Ils entendaient Dieu marcher et leur parler avec une voix audible. Imaginons avoir la voix audible de Dieu, d'entendre ses pas. C'était la perfection dans le jardin. Il n'y avait pas de tristesse, là. Il n'y avait pas de maladie, là. Il n'y avait pas de dépression. Il n'y avait rien qui pouvait opprimer, qui pouvait brimer. C'était en effet la perfection de Dieu qui régnait là. C'était une place de communion où il n'y avait aucune malédiction. Sommes-nous là, à cet endroit? Êtes-vous là où rien de la malédiction n'est attaché à vous? Tout ce qui n'est pas de la vie, la santé, les forces physiques, une raison saine, la pureté, la sainteté. Si ces choses ne font pas partie de notre vie, c'est qu'en effet, il y a une partie de la malédiction qui est attachée à nous. Mais Dieu dit dans sa parole qu'il y a un endroit où la malédiction ne peut pas demeurer, ne peut pas venir pour rester. Et c'est dans la rédemption en Jésus-Christ et à nulle part autre. Si vous avez vos Bibles ce matin, je vous inviterai à tourner avec moi dans Proverbes. Le livre de Proverbes au chapitre 26 et les versets 2. Donc, Jésus, notre Rédempteur, il est venu nous racheter, il est venu racheter le genre humain, nous donner ce qui nous était volé par l'ennemi. Satan est venu et volé dans le jardin. Il est venu par la trahison, par le mensonge, il est venu voler ce que Dieu nous avait donné. Mais Jésus est venu pour nous racheter, nous redonner ce qui nous appartenait autrefois. Alors, Proverbe 26, le verset 2, nous lisons, « Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. » Alors, selon la parole de Dieu, si la malédiction sous aucune forme s'attache à nous, c'est qu'il y a une cause. Et c'est nécessaire de la trouver afin d'y remédier. Est-ce que la nouvelle naissance ne nous place pas, ne nous met pas en Christ? Mais bien sûr que oui. Mais la parole de Dieu nous dit dans Colossiens 2, au verset 6, « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. » Marchez en lui. Voilà la clé. On va toucher un peu plus ce matin ce que ça veut dire de marcher en lui. On sait que l'apôtre Paul, qui écrit ça aux Colosses, à l'église des Colossiens, s'adressa à des gens qui sont nés de nouveau. S'adresse à des gens qui connaissent le Seigneur, qui font profession de foi. Il leur dit, il les exhorte de marcher en lui. Alors, pourquoi les exhorter à marcher en lui si le danger de ne pas le faire n'existe pas? Combien de fois est-ce que la parole de Dieu nous exhorte de demeurer en lui? Demeurer en lui. La parole de Dieu est un ancre sûr. C'est ça qui doit dominer dans nos vies. C'est la parole de Dieu qui doit avoir la première place dans nos vies en toutes choses. Je ne vous inviterai pas nécessairement à tourner avec moi tous les passages, mais je lis en Jean, l'Évangile de Jean, chapitre 15, l'importance de demeurer en lui. Jean 15, le verset 4, qui nous dit, « Comme le serment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. » Le verset 7, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Alors, on voit l'importance de demeurer en lui. La parole de Dieu nous exhorte à maintes et maintes fois. C'est là qu'on peut porter du fruit, de demeurer en lui. Et ça assure l'exaucement de nos prières aussi bien. Si on veut avoir la réponse à nos prières, si on veut avoir les choses que Dieu a octroyées pour nous, si on veut avoir les choses qui nous appartiennent, il faut demeurer en lui. Tournez avec moi dans 1 Jean, l'épître de Jean. 1 Jean 2, le verset 6. On va voir encore l'importance. L'exhortation de demeurer en lui, demeurer ancré en lui. 1 Jean 2, 6. Celui qui dit demeurer en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Vous allez me dire peut-être, « Ah oui, mais nous, là, les êtres humains, les hommes, on n'est pas capable de faire ça. On n'est pas capable de marcher comme le Fils de Dieu a marché. Après tout, c'est Jésus. » Et en effet, c'est Jésus. Il est toujours le Fils de Dieu. Mais pourtant, c'est notre appel suprême en Jésus-Christ. Et c'est le seul endroit où se trouve notre rachat entier. Il faut marcher en lui, il faut demeurer en lui. C'est là que se trouve notre rachat. On sait que Dieu, le Père, a envoyé Jésus. Il nous a envoyé pour nous montrer comment vivre. Comment vivre sur cette terre. Jésus est un exemple de vie. Il a vécu pendant 30 ans à marcher, à prier, à guérir les malades, à toucher les foules, à prêcher la parole, à annoncer le royaume de Dieu. Il a servi d'un exemple pour nous. Et Jésus dit, « Suivez-moi. » Il dit, « Suivez-moi. » Ce qui veut dire qu'il nous invite, il nous demande de vivre comme il a vécu. Il a dit, « Suivez-moi. » Alors, c'est parce qu'on est capable de le faire. Parce qu'à nulle part, est-ce que la parole de Dieu nous donne un ordre, nous donne un commandement qu'on n'est pas capable d'exécuter, qu'on n'est pas capable de faire. C'est pas par nos forces, c'est par la grâce de Dieu. Mais il dit, « Suivez-moi. » La parole de Dieu nous dit que Il nous a envoyés. Jésus nous envoie comme il a envoyé le Père et que nous devons les garder, les commandements du Père, comme Jésus a gardé les commandements de son Père. La parole de Dieu nous dit que ceux qui m'aiment gardent les commandements. On doit apprendre à vaincre comme Jésus a vaincu. À vaincre comme il a vaincu. On ne doit pas être de ce monde. La parole de Dieu dit que nous sommes dans le monde, mais que nous ne sommes pas de ce monde. Comme Jésus n'était pas de ce monde. En toute chose, on doit suivre son exemple. Parce que celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés doivent être un, comme le Père et le Fils sont un. Vous savez, parce que souvent on trouve que les exigences sont hautes. On trouve que la barre est trop élevée. On ne se soucie pas d'atteindre ce niveau de perfection en Christ. Parce qu'on dit, c'est trop élevé pour moi, j'y arriverai jamais. Alors on se tourne de bord, puis on n'essaye même pas d'atteindre ce niveau-là. Et la conséquence de ça, c'est qu'on est privé de notre pleine rédemption. Très rarement, est-ce qu'on peut trouver un enfant de Dieu qui n'a aucune forme de malédiction attachée à lui. Mais le Seigneur nous parle, il nous exhorte dans Hébreux. Il dit, tendons vers ce qui est parfait. On est appelé à la perfection. Comme notre Père est saint, nous devons être saints aussi. Il nous exhorte à la sainteté. Il veut que son peuple tende vers la perfection. Alors, on pourrait dire que la pleine rédemption, c'est la perfection pour notre esprit, notre âme et notre corps. Et la seule façon de l'obtenir, c'est de marcher en lui. Voilà la règle d'or, de marcher en lui. On ne doit pas seulement se contenter de dire que Jésus l'a fait pour nous. Oui, Jésus l'a fait pour nous. Il est notre rachat. Il est notre rédempteur. Il est notre goël. Il est celui qui s'est donné pour nous. Il est la victime expiatoire pour nos péchés. Par son sang versé au calvaire, ça nous donne le droit légitime de l'appeler papa. C'est la sanctification qui a produit en nous le sang de Jésus. Mais il faut dire qu'il va le faire en nous aussi. Jésus veut nous sanctifier. Il veut qu'on mène une vie de sanctification, puis il veut le faire en nous. Il est disposé, il est disponible à le faire en nous, mais il faut le laisser agir en nous. Il faut le laisser travailler en nous. Vous savez que si on commet la plus petite des transgressions, des fois on pense aux gros péchés. « Ah, mais moi, je n'ai pas tué, je n'ai pas volé, je n'ai pas commis l'adultère, je n'ai pas fait ci, je n'ai pas fait ça. » Puis on pense qu'on est correct. Mais la parole de Dieu dit que si on commet le plus petit des transgressions, le plus petit des péchés, on ne marche pas en lui, parce qu'en lui, il n'y a pas de péché. Si je déplais à Dieu, je ne marche pas en lui, car Jésus a dit qu'il fait toujours les choses qui plaisent à son Père. Si je suis désobéissant, je ne marche pas en lui, parce que Jésus a été obéissant jusqu'à la mort. Si je n'aime pas, je ne marche pas en lui, car il est amour. Si je juge, si je condamne mon prochain, je ne marche pas en lui parce que Jésus dit qu'il n'est pas venu pour condamner, mais il est venu pour sauver ce qui était perdu. Si je cherche même à me faire une réputation, je ne marche pas en lui, car il ne cherchait pas son propre intérêt. Jésus ne cherchait pas sa propre gloire, mais qu'est-ce qu'il a dit? « Je suis doux et humble de cœur. » Voilà notre Jésus. Il s'est humilié lui-même. Il ne répondait rien, même au bourreau. Lorsqu'on l'injuriait, lorsqu'on l'accusait faussement, lorsqu'on disait des mensonges de lui, il n'ouvrait pas la bouche. Jamais qu'on voit Jésus qui s'est défendu. Même devant le tribunal, lorsqu'on faisait... On lui faisait un procès avant de le crucifier, avant de le mettre à la mort. Le roi des rois, le seigneur des seigneurs ne s'est pas défendu. Il aurait pu appeler une légion d'anges de venir à son secours. Il aurait pu prendre son autorité. Il était le fils de Dieu. Mais non, c'est dépouillé de sa gloire. C'est dépouillé de tout ce qu'il avait. Il n'a pas résisté même à tout le mal qu'on lui faisait. Il s'est livré lui-même entre les mains des malfaiteurs. Il n'aurait pas pu le saisir si Jésus n'aurait pas laissé sa vie de façon volontaire. Il s'est livré entre les mains des malfaiteurs. Est-ce qu'on peut dire que chaque jour, on marche en lui, dans toutes ces choses? Et pourtant, c'est seulement là qu'est notre plein rachat. Jésus dit dans sa parole que sans lui, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais heureusement, Philippiens 4:13 nous dit, « Je puis tout par Christ qui me fortifie. » Il va toujours nous fortifier. Il va toujours nous aider pour être capable d'obéir à ses commandements. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait de par nos forces à nous. Ce n'est pas quelque chose qu'on est capable de produire, nos œuvres. On n'est pas capable de produire l'œuvre de l'obéissance. Mais si on se met sous son joug, si on se rend disponible à lui, on sait que tout est par grâce et que la gloire appartient à lui seul. Le Seigneur va nous aider. Il va nous aider à l'obéir. Il va nous aider à être des enfants obéissants, des enfants de lumière. Il va nous fortifier. Tournez avec moi, s'il vous plaît, au psaume 91. Psaume 91 et le verset 1. La parole de Dieu dit qu'il va nous délivrer, il va nous protéger, il délivre ceux qui demeurent en lui. Le verset 1 nous dit que ceux qui demeurent sous l'abri du Très-Haut reposent à l'ombre du Tout-Puissant. Donc, de demeurer, ça suggère quelque chose, c'est une constance. C'est de demeurer. On a tous un lieu de résidence, on peut aller visiter nos amis, on peut aller visiter notre parenté, mais on ne réside pas là. On a tous un lieu de résidence quand on remplit des papiers gouvernementaux, quoi que ce soit, ils vont nous demander notre résidence permanente. On doit donner une adresse, on ne peut pas dire « Ah, oh, mais là, je reste à telle adresse la semaine prochaine, ben là, je ne sais pas. » Non, on réside en quelque part, on visite les gens, mais on réside en quelque part, on a un lieu de résidence. Et notre lieu de résidence devrait être en Christ, dans les choses spirituelles. Comme on a un lieu, on a une place où qu'on demeure. On a tous une demeure, on a tous un endroit où demeurer, mais on doit demeurer en Christ. Sous l'abri du Très-Haut repos, on repose à l'ombre du Tout-Puissant. Les versets 9 et 10 nous disent, « Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun fléau n'approchera de ta tente. » On sait que ça parle de notre corps. On est dans une tente, c'est temporaire. On ne résidera pas dans ce corps pour toujours. Un jour, on va avoir un corps glorifié. Un jour, ça va être l'édifice de Dieu qu'on va revêtir, un édifice céleste. Mais pour tout de suite, on est dans une tente. C'est temporaire. Mais la parole de Dieu dit qu'aucun fléau, aucun fléau. C'est-à-dire, on pourrait dire qu'aucune malédiction n'approchera de ta tente. Le verset 14 dit, « Je le délivrerai. » Cela veut dire qu'il va nous rendre libres de la malédiction. Il va nous rendre libres du pouvoir de l'ennemi, du pouvoir de Satan. Pourquoi? Parce qu'on l'aime et qu'on connaît le pouvoir de son nom. On a chanté tout à l'heure, « Ton nom est grand, ton nom est saint. » On doit connaître davantage le nom de Jésus. La puissance qui se tient derrière le nom de Jésus, c'est l'autorité, ça nous appartient. C'est un droit de rachat qui nous appartient, le nom de Jésus. On a le droit de se servir de ce nom très haut. Et tout le ciel va endosser notre prière. Voilà la puissance du nom de Jésus. La seule vraie façon de connaître Dieu, c'est de vivre comme il a vécu jour par jour. Jour par jour. Mais c'est dans sa grâce, c'est dans sa puissance, c'est dans sa force. On ne peut pas essayer de produire ça par nous-mêmes. Parce que nos œuvres sont vaines, mais si on se confie en lui, si on laisse lui travailler en travers de nous, son œuvre va se manifester en nous. Donc, s'il y a encore de la malédiction qui s'attache à nous, que ce soit la maladie, la souffrance, la peine, la dépression, la tristesse, c'est parce que les choses anciennes ne sont pas passées. C'est parce qu'on vit encore selon l'homme naturel, au lieu de vivre, au lieu de demeurer en Christ, où toutes choses sont nouvelles. C'est en Christ que les choses sont nouvelles. Les choses anciennes doivent être passées. Ça doit faire partie de notre passé. Les choses nouvelles se trouvent en Christ. Alors, si on demeure en lui, toutes choses seront nouvelles. Toutes choses vont être nouvelles. Toutes choses sont nouvelles. On les amène au présent. Dieu veut qu'on apprenne à résister au diable. Il nous a donné les armes nécessaires. Il nous a donné l'équipement nécessaire. Il nous donne les consignes dans sa parole pour être capable de résister à l'ennemi. Il veut qu'on s'élève au-dessus de la tentation. Il ne veut pas toujours qu'on soit écrasé, qu'on soit mené, on a changé de royaume. Autrefois, on vivait dans un royaume de ténèbres. On vivait sous l'emprise de l'ennemi. C'est lui qui avait son emprise sur nous, puis il nous menait mal. On avait un mauvais maître. Mais la parole de Dieu dit qu'il nous a délivrés du royaume des ténèbres. Il nous a transporté dans le royaume de son Fils bien-aimé, dans un royaume de lumière, dans un royaume de puissance, dans un royaume de pouvoir. Sa volonté parfaite, c'est que nous vivions dans la victoire, que nous marchions dans la victoire tous les jours de notre vie. Et c'est en marchant en lui, pas juste avec lui. Vous savez, des fois, on peut aller prendre une marche avec quelqu'un, on prend, même avec le Seigneur, on peut le prendre par la main et dire, « Oh Seigneur, j'aimerais ça prendre une belle marche avec toi. » Mais le Seigneur veut plus que ça. Il veut pas juste qu'on marche avec lui. Il veut qu'on demeure en lui. Il veut qu'on réside en lui. Et l'une des façons de demeurer en lui, c'est de demeurer dans sa parole. Si ses paroles demeurent en nous, et que je demeure dans sa parole, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. L'importance de demeurer en lui. 2 Corinthiens 5, 17 nous dit, « Si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées. » Donc, on ne doit plus vivre dans ces choses anciennes-là. Elles sont passées. C'est clair. Si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées. C'était ces choses anciennes-là que l'ennemi pouvait utiliser contre nous. Puis il peut l'utiliser encore contre nous. Mais il ne peut rien mettre sur Christ. L'ennemi ne peut rien mettre sur Christ. Donc, il ne peut rien mettre sur nous si on demeure en lui. Voyez-vous l'importance de demeurer en lui? Si on demeure à côté de lui, on va prendre une marche avec lui, on n'est pas à l'abri. Il faut demeurer en lui. Alors, quand l'ennemi arrive pour toucher à Jésus, il ne peut pas lui toucher. Il n'a pas l'autorité, il n'a pas le pouvoir de toucher à Jésus. Si vous demeurez en lui, il ne peut pas vous toucher. Parce qu'il faudrait qu'il touche à Christ. Il faudrait qu'il mette la maladie sur Christ. Il faudrait qu'il mette l'oppression sur Christ. Il faudrait qu'il mettrait la tristesse sur Jésus. Il ne peut pas le faire. Alors, si on demeure en lui, il ne peut pas vous toucher. Le mal ne peut pas nous atteindre. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pèche point. Si quelqu'un est né de Dieu, il se garde lui-même et le malin ne le touche point. Le malin ne le touche point. Ou la malédiction, si vous voulez. La dépression, la tristesse, les jongles, l'oppression, la maladie, la pauvreté ne peut pas demeurer sur nous si on est en Christ. Alléluia. Voyez-vous l'importance de demeurer en lui, de le connaître et de demeurer en lui. 1 Jean 5, 18 nous dit d'enlever, de dépouiller. Il faut qu'on se dépouille du vieil homme pour revêtir l'homme nouveau. Le vieil homme, c'est notre façon qu'on pensait avant. C'est la façon qu'on envisage nos circonstances. C'est la façon qu'on envisage nos factures. C'est la façon qu'on envisage une mauvaise nouvelle. Le médecin nous donne un mauvais rapport. Ça fait toute partie du vieil homme. S'inquiéter, s'énerver, prendre le téléphone, puis on est tout énervé, on ne sait pas, on se garoche à droite puis à gauche, on demande des prières, on est... Non. On dépouille, on se dépouille du vieil homme. La parole de Dieu nous dit que nous avons la puissance de résister à l'ennemi, de revêtir les armes. On a des armes. Parce que notre combat n'est pas selon la chair. On ne combat pas les uns contre les autres. On ne combat pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés célestes dans les cieux. On ne les voit pas, mais sont puissants, sont là, sont à l'œuvre. Puis si on a continuellement le vieil homme, si on a continuellement notre vieille façon de penser, notre vieille façon d'agir, notre ancienne façon de parler, mais on est revêtu avec le vieil homme. Il faut s'enlever ce vieux manteau-là. Il faut se dépouiller du vieil homme pour revêtir l'homme nouveau, qui est selon Christ. Proverbe 18, verset 10 nous dit que le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité, en l'abri. On est à l'abri, peu importe ce qui arrive autour de nous. Peu importe nos circonstances, peu importe les gens qui sont déprimés autour de nous, que tout peut s'écrouler autour de nous, le Seigneur dit, il est une tour forte et le juste s'y réfugie. On trouve refuge. Vous savez, il y a eu un tremblement de terre juste dernièrement en Iran. J'imagine que ceux qui ont resté en vie cherchaient un refuge, cherchaient de l'abri. Des désastres comme ça, c'est affreux, des choses comme ça. C'est des choses naturelles. Mais Dieu dit qu'en lui, on peut se réfugier. Parce que la tempête vient parfois. La tempête peut venir dans nos vies. On n'est pas à l'abri de la tempête parce que nous sommes chrétiens. Parce que nous sommes nés de nouveau. Oui, la tempête peut venir. Les vents peuvent souffler. Mais si on est fondé, si on est enraciné, si nous sommes en lui, si on demeure en lui, on est sous l'abri, la protection du Tout-Puissant. C'est Dieu qui va nous rendre capables de demeurer pleinement en lui et d'y rester. Pas simplement de demeurer pour un temps, mais de rester de faire du Très-Haut notre tour, notre haute retraite. Il faut demeurer en lui et y rester. Il va nous aider si on prend la décision. Il faut prendre une ferme décision d'y arriver, peu importe le prix à payer. Peu importe ce que ça peut me coûter. Ça peut me coûter ma réputation. Ça peut me coûter mes amis. Mais si je me décide, je me détermine, peu importe le prix à payer, de demeurer en lui et d'y rester, il va nous aider à accomplir. Si on est déterminé d'accomplir sa pleine volonté dans notre vie, pas juste être dans sa permission, là, mais d'être au centre de sa volonté dans nos vies. Si on est déterminé qu'il puisse accomplir sa pleine volonté dans nos vies, savez-vous ce qu'il va faire? Il va endosser. Voilà notre grand Dieu. Il est puissant. Il va endosser votre volonté par sa puissance à lui. C'est lui qui va vous rendre capable, qui va nous rendre capable de faire et d'accomplir les œuvres qu'il a prédestinées pour nous. Ça prend juste de notre part une détermination, un engagement de cœur, une consécration. Prie, Seigneur Dieu, je suis prêt à payer le prix. Oui, Seigneur Dieu, je te permets de faire ta pleine volonté en moi. Le Seigneur se lève, son bras tout puissant, il endosse. Vous savez, quand on endosse à la caisse des fonds, on a déjà... Des fois, pour les gens qui sont plus jeunes, ça leur est arrivé. Des fois, qui ont besoin d'un endosseur. Ils ont besoin de papa. Ils ont un bon travail. Ils ont tout ce qu'ils ont besoin, mais ils ont besoin de quelqu'un qui est endossé à la banque pour eux. Dès que la signature du père est sur le chèque, sur le contrat, le jeune touche son argent. Il peut aller chercher son auto, sa part. On a un endosseur, Jésus-Christ, notre Seigneur. Il vit, il règne, il endosse notre volonté par sa puissance. Il dit, tu veux mon enfant? Voilà, je te rends capable. Je vais mettre ma grâce, je vais mettre ma puissance sur toi pour te rendre capable de vivre à la hauteur pour laquelle je t'ai racheté. Alors, si on demeure en lui, il n'y aura aucune malédiction qui peut s'attacher à nous. Parce qu'il faudrait qu'il passe par Christ, il faudrait qu'il frappe Christ. Christ a été frappé une fois. Il a été élevé une fois pour le salut de plusieurs. Alors, il peut pas, ce qu'il ne peut pas mettre sur lui, il ne peut pas le mettre sur vous, il ne peut pas le mettre sur moi si on demeure en lui, caché en lui, à l'abri du Tout-Puissant. Alors, on ne doit pas tolérer la malédiction. On a vu que tout ce qui ne fait pas partie de la vie, parce que Jésus est venu pour donner la vie à ses brebis, il est venu pour la donner, nous donner de la joie avec abondance. On ne peut pas dire qu'on est dans la joie quand on a mal partout. On ne peut pas dire qu'on est dans la joie quand tout s'écroule autour de nous, notre petit monde, qu'il n'y a plus rien qui va. C'est la tristesse, c'est la dépression, c'est l'oppression. C'est pas la joie, mais Jésus est venu pour anéantir ces choses. Il est venu pour détruire ces choses. Il est venu pour nous donner la joie, la paix, l'amour en abondance. À nous de répondre à lui. À nous de dire, Seigneur, je te donne tout. Je suis prêt à payer le prix. Je veux payer le prix, je vais payer le prix, afin, Seigneur, que tu puisses avoir ta pleine volonté en moi. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Il vous aime. Il y a des plans, des projets devant la fondation du monde sur vos vies. Tout ce qu'il veut, c'est cette réponse de vos cœurs. Dis, Seigneur Dieu, voici ma vie. Je te remets tout ce que j'ai. Je prends la ferme décision de demeurer en toi. Je me dépouille des choses anciennes. Je me dépouille du vieil homme. Je me dépouille de la vieille femme. Je me dépouille de ma façon de penser d'autrefois, de ma façon d'agir d'autrefois. Et Seigneur Dieu, de mes paroles. Et maintenant, je revais l'homme nouveau selon toi. La femme nouvelle selon toi. Alors le Seigneur va endosser par sa puissance. Il va vous rendre capable de demeurer en lui, d'y rester. Alléluia. On va pencher nos têtes. Je vous inviterai à vous lever ce matin. Puis on va prendre un moment de réflexion. On va sonder nos cœurs. On va laisser l'Esprit Saint sonder nos cœurs. Patrick, si tu veux venir, tu peux nous faire de la musique douce. On l'apprécie beaucoup. On va laisser le Saint-Esprit sonder nos cœurs ce matin pour voir s'il y a encore quelque chose qui s'attache à nous qui n'est pas de Dieu. C'est un domaine de notre vie où est-ce qu'on n'a pas encore la délivrance. Le Seigneur veut rendre son peuple libre ce matin. Sa présence est ici ce matin. Il est au milieu de son peuple. Et ce qu'il a fait il y a 2000 ans, il veut le faire encore ce matin parce que la parole de Dieu nous dit que Dieu ne change pas. Alors, il veut toucher les cœurs. Il veut toucher les corps ce matin. Il veut nous toucher esprit, âme et corps et nous rendre libres en lui. Libres de demeurer en lui, de résider en lui. Alléluia, Seigneur Dieu. On élève nos cœurs devant toi, Seigneur Dieu, afin que tu puisses nous sonder dans le plus profond de notre être, Seigneur, ce matin. Sonde nos cœurs, Seigneur Dieu. On désire demeurer en toi. On désire que tu demeures en nous. On désire d'être pleinement au centre de ta volonté. D'être un avec toi comme Jésus, le Père, vous êtes un. Merci, Seigneur, que ce n'est pas par nos forces. Merci que ce n'est pas par nos œuvres à nous, mais que c'est par ta grâce, Seigneur, afin que la gloire revienne à toi seul. Merci de nous aider, que tu vas nous aider. Nous prenons la décision ce matin de remettre tout notre être entre tes mains. Fais ta demeure en nous, Seigneur Dieu. Alléluia. Gloire à toi. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce, Seigneur Dieu. Et avec tous les yeux fermés, s'il y a quelqu'un ce matin ici qui n'est pas certain d'appartenir à Jésus, qui n'est pas certain d'avoir cette relation, on ne parle pas de religion, mais on parle d'une relation, une relation intime entre notre Créateur et vous-même. C'est quelqu'un qui n'est pas certain, qui dirait, je ne sais pas si... Je ne sais même pas comment demeurer en lui, parce que je ne sais même pas si je lui appartiens. Mais c'est votre occasion ce matin de l'inviter. D'inviter Jésus à venir vivre dans votre vie. De l'inviter comme non seulement qui est votre Créateur, mais de l'inviter dans votre vie pour qu'il devienne votre Sauveur et votre Seigneur. Avec les yeux fermés, je vous demanderai de lever la main si quelqu'un ce matin qui a besoin de recevoir Jésus. On va prier pour vous. Sinon, si nous sommes tous des enfants de Dieu, on sonde nos cœurs, on laisse l'Esprit Saint sonder nos cœurs, faire la lumière dans nos cœurs, afin que sa pleine volonté puisse s'accomplir en nous. Alléluia. Merci, Seigneur Dieu. Merci que tu as des grands plans, des grands projets pour ton Église, pour cette Église ici, la vie comblée, Seigneur Dieu, et pour ton Église universelle. Tout ce que nous voulons, Seigneur, c'est être disponible afin que tu puisses nous utiliser comme bon te semble. Merci que tu nous donnes la force et la grâce de te dépouiller des choses anciennes, de revêtir l'homme nouveau, la femme nouveau, selon toi, créé à la perfection de Dieu. Merci, Seigneur Dieu. Alléluia. Nous te bénissons, nous te louons et nous t'exaltons, car tu es digne, Seigneur Dieu. Alléluia. Gloire à toi. C'est quelqu'un qui a besoin de grâce ce matin. C'est quelqu'un qui dirait, ben moi, je suis prête à faire ça, mais j'ai besoin de quelqu'un qui s'accorde avec moi, qui s'accorde avec ma foi. Je vais mettre ma foi avec la vôtre. On va prier une prière d'accord. C'est quelqu'un qui a besoin de délivrance ce matin. Quelqu'un qui sent qu'il est toujours sous l'emprise, une sorte d'emprise, que ce soit la maladie, la tristesse, la dépression. Ça ne vous appartient pas. Ça n'appartient pas au peuple de Dieu. Il nous a racheté un grand prix pour qu'on lui appartienne et qu'on vive pour lui. Alors, je vous demanderai d'avancer, sans gêne. C'est quelqu'un qui a besoin de prière. Et on va prier avec vous, on va se mettre en accord avec vous. On va voir la main de Dieu vous toucher ce matin et vous rendre libre.